Esprit de Dieu et l'esprit du monde. Quelle a été la vision de Dieu ou ses vœux en créant l'homme? Genèse 1, versets de 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu de l'univers, en créant l'homme, Dieu son souhait était que l'homme soit aussi Dieu sur la terre. Pour être Dieu de la terre, l'homme doit impérativement avoir la même image et la ressemblance de son créateur, Dieu de l'univers, et lui ressembler. Aussi l'homme doit avoir les mêmes attributs que son créateur. Être saint comme Dieu son créateur est saint. Dominer et assujettir tout ce que la terre renferme. Cet homme est considéré par Dieu saint et créateur, son enfant, son héritier. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Tout être humain créé par Dieu saint reçoit un esprit qui est donné à toute la création. Cet esprit, on le nomme le souffle de vie, que le Créateur donne à tous. L'homme respire, l'animal respire, le poisson respire, l'oiseau respire, l'arbre respire, toute créature respire. Ce souffle ou cet esprit s'appelle l'esprit du monde, car il est donné à toute la création. Cet esprit ne fait pas de la créature enfant de Dieu. Cet esprit fait de la créature une créature vivante. Quand Dieu a créé Adam, au départ, Adam n'était qu'un bloc de terre, comme une statue. Une statue a des yeux, mais ne voit pas. Cette statue a aussi des oreilles, mais n'entend pas. Cette statue a des membres, c'est-à-dire des bras, des jambes. Cette statue a aussi une tête, un tronc, donc un corps. Mais seulement cette statue ne bouge pas. Un bloc de terre n'a pas la vie, c'est-à-dire un souffle de vie. Alors Dieu, son créateur, va mettre dans ses narines un souffle de vie pour que cet homme, Adam, devienne une âme vivante. Mais cet homme qu'est Adam ne connaissait rien. Adam n'était pas encore à l'image de Dieu, car il était tout simplement une créature. Car pour être à l'image de Dieu, Adam devait recevoir l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu fasse de lui l'image de Dieu ou l'enfant de Dieu. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pour permettre à Adam de devenir l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu saint, Dieu met en place une structure. Nous pouvons dire une école pour la formation d'Adam, où Adam va apprendre comment devenir Dieu saint. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dans cette structure que Dieu appelle jardin d'Éden, n'est autre que sa présence. La présence de Dieu. Adam sera mis dans cette présence pour planter et surtout garder la nature de Dieu saint. Cette image de Dieu et sa ressemblance ne sont pas un ensemble d'images photographiques. On trouve cette image et ressemblance dans le comportement, dans l'attitude, dans la conduite et le langage de l'homme. Cette image et ressemblance, c'est le reflet de gloire de Dieu. C'est l'empreinte de sa personne. C'est le Dieu invisible qu'on voit à travers le corps de l'homme, son enfant. Adam devait remplir son corps par cette nature de Dieu saint. D'où Colossiens 2:9 et Colossiens 1:15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1:3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jean 14, de 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Voilà le rôle ou le programme de cette structure, qui a comme mission la formation des dieux. Genèse 2, 8 et de 15 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Se trouve dans cette structure le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden se trouvent deux arbres. Le premier arbre, ou le premier module, cet arbre s'appelle l'arbre de vie. Cet arbre de vie sert à former les dieux. Cet arbre s'appelle Christ, la parole de Dieu. Cet arbre de vie donne les fruits de l'Esprit de Dieu. C'est dire, ces fruits donnent la nature de Dieu saint. Cet arbre de vie conduit par ses fruits le futur Dieu, à la sainteté et à la perfection de Dieu. Il donne aussi au futur Dieu la vie éternelle, car Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Jean 6, 48, 50 et 51. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc la mission de ce premier arbre, cette phrase de cette structure, est de faire d'Adam, petit dé, un dieu. L'enfant de Dieu saint, Dieu de l'univers, le Dieu, petit dé, éternel. Il y avait aussi un autre arbre, un second module. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu, le Créateur, a défendu à Adam de ne pas manger ni de toucher. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras de ces fruits, tu mourras certainement. » Qu'est-ce qu'il y avait dans cet arbre? Cet arbre comportait des bons fruits et des mauvais fruits. Adam ne devait pas avoir accès à cet arbre sans commencer d'abord par cette formation donnée par l'arbre de vie. Sans cette formation, Adam demeurait toujours ignorant. Ignorant, il ne pourra pas faire le choix. Ce choix de rejeter le mal et choisir le bien. Car si Adam mange des fruits de ce second arbre, il lui sera impossible de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Car l'esprit de discernement est donné par la première phase de la structure de la formation, c'est-à-dire l'arbre de vie. C'est le Christ, la parole de Dieu, qui conduit l'homme à la sainteté, la perfection et ainsi que l'esprit de discernement et l'immortalité. Car Dieu saint est Dieu d'amour. Jean 17:17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Après cette formation, Adam est rendu capable de choisir le bien et rejeter le mal, de produire les bonnes choses selon la volonté de Dieu saint et éternel. Ainsi, s'abstenir de produire des choses mauvaises, ces choses mauvaises qui conduisent à la mort. Adam va bénir au lieu de maudire. Adam exercera toujours l'amour comme son créateur et père. Mais Adam, ignorant qu'il était, a tourné le dos à l'arbre de vie. Il s'est précipité à manger le second, cet arbre qui lui avait été défendu. Donc, il a mangé la connaissance du bien et du mal. Si nous prenons une formule mathématique ou algèbre, le bien est représenté par le signe plus ou positif. Le mal est représenté par le signe moins ou négatif. Faisons un peu de mathématiques ou algèbre. Plus ou positif, multiplié par moins ou négatif, égale moins. En abrégé, plus multiplié par moins, égale moins. Le mélange des deux signes donne le négatif, c'est-à-dire la mort. Voilà ce que Adam a choisi, la mort. Genèse 3, de 9 à 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le seul sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam a été même chassé de cette présence de Dieu. Il est interdit à Adam de fouler ses pieds, le sol de cette présence. Genèse 3, de 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour faire un bon choix, c'est important de passer par la phase première de cette présence de Dieu. C'est cela qui te permettra de bien faire le choix. Adam, malgré sa corpulence, Adam était un bébé spirituel, ignorant. Il aurait fallu qu'Adam passe par ce chemin, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal pour choisir le bien. Mais Adam a fait le contraire. Ésaïe 7, 15. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Une fois acquis cet esprit de discernement, alors Dieu lui présentera cet arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'Adam le bébé qui a grandi puisse faire un bon choix. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas lui permettre de manger ses fruits de cet arbre, mais cet arbre comportait des bons et des mauvais fruits. Prendre tous ses fruits sans discerner le bon fruit du mauvais fruit conduit à la mort. 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ézéchiel 18, de 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Adam, par son ignorance, s'est privé de la filiation de Dieu, de l'image et de la ressemblance de Dieu. Il s'est privé de la domination, de l'assujettissement de la terre et tout ce qu'elle renferme. Il reste créature, comme toutes les créatures, dépourvu de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Fils. Il est devenu étranger de la vie de Dieu. Il a tout simplement l'esprit du monde, c'est-à-dire le souffle de vie comme toute créature. L'homme animal ou l'homme naturel, il ne peut plus appeler son créateur Père, mais il l'appellera toujours mon Dieu. Car ceux qui appellent Dieu Père, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit du Fils, qui sont à l'image et à la ressemblance de leur Père par Jésus-Christ. Dieu est lumière. Ses enfants doivent être aussi des enfants de la lumière, des enfants du jour. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, de 4 à 10. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu doit retirer son Esprit Saint dans l'homme, c'est-à-dire tous les descendants d'Adam, car ils sont à l'image de leur père Adam. Genèse 5, 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ayant perdu cette gloire qu'est l'Esprit de Dieu Saint, Dieu procède au retrait de son Esprit. Mais par son amour, son Esprit restera un moment pour les protéger. Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, « Mon Esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Voici comment Dieu va procéder à ce retrait. Il a même décidé l'extermination de la nature humaine et toute la création. Genèse 6, de 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut avoir l'immortalité sur la terre. L'homme tiré de la terre créée par Dieu, devenu chair, doit retourner dans la terre. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans, comme il est écrit dans Genèse 6, 3. Mais Dieu, par sa miséricorde, Dieu décide par sa bouche de faire l'homme son image. Cette parole ne peut retourner vers lui sans que cela s'accomplisse. Ésaïe 55, de 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors Dieu a pitié par compassion de l'homme, car un seul a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Genèse 6, de 8 à 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Genèse 7, de 1 à 5. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse 7, de 16 à 18. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Mais par son amour, l'Esprit de Dieu était dans l'arche de Noé, pour les protéger, c'est-à-dire Noé et tous ceux qui étaient avec lui. Genèse 7, de 22 à 24. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Durant toute cette période, l'Esprit de Dieu ne les quittait pas. Son esprit restait sur eux. Car il fallait que Dieu les ramène à bon port. Genèse 8, de 6 à 9. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Cette colombe n'était autre que l'Esprit de Dieu Saint, mais aussi il y avait l'Esprit du monde. C'est le corbeau. Le corbeau, lui, est resté avec eux pour toujours. Pendant ce temps, la colombe, donc l'Esprit de Dieu, va partir définitivement. Genèse 8, de 10 à 12. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'Esprit de Dieu Saint quittait l'homme, en laissant l'homme avec son esprit du monde, le corbeau. À partir de ce moment, l'homme ne peut pas comprendre les choses venant de l'Esprit de Dieu. L'homme ne peut pas discerner les choses de Dieu Saint, ces choses agréables à Dieu le Père. Ce que nous devons comprendre, c'est que cet esprit du monde fait aussi des révélations, des prophéties, car dans le monde, pour les esprits, rien n'est caché, mais seulement ces esprits ne peuvent pas vous communiquer. Alors, comment rentrer dans ces promesses révélées? Alors ils exigent des offrandes, des sacrifices par des rites et traditions démoniaques. Aussi, il pousse les hommes à adorer les idoles, c'est-à-dire les statues, les photos, pour que ces idoles deviennent leur dieu, qu'ils en fassent leur dieu. Petit dé, évidemment. Cet esprit du monde sait ce qu'il fait, car ces choses, Dieu saint condamne cela. Exode 20, de 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment, et qui garde mes commandements. Ces choses, on les observe, et cela presque dans toutes les dénominations dites chrétiennes. C'est l'ignorance et surtout l'incrédulité du cœur de l'homme descendant d'Adam. Matthieu 15, de 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ces commandements d'homme, c'est l'esprit corbeau. Mais Dieu est un Dieu saint et Dieu d'amour. Il veut racheter tous ces étrangers en les adoptant pour faire d'eux ses enfants à son image et à sa ressemblance. Comme cela a été dit au commencement. Afin que sa parole ne retourne pas à lui sans que ses vœux s'accomplissent. C'est pour cela Dieu va faire descendre cet arbre de vie sur la terre, pour accomplir sa mission en rachetant les enfants d'Adam, afin de leur permettre de manger les fruits de cet arbre que leur père avait rejeté. Ainsi l'Esprit de Dieu leur sera accordé. Voici comment l'Esprit de Dieu est revenu sur l'homme. Il est revenu par le deuxième Adam, à la personne de Jésus-Christ. Jésus en habitait Christ, l'arbre de vie. Jésus était devenu Jésus-Christ. Jésus a bien planté et surtout, il a bien gardé cet arbre de vie. Hébreux 10, de 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est par lui, Jésus-Christ, que Dieu lui accorde, sur sa demande, son Esprit Saint. La parole de Dieu dit, et l'Esprit accomplit ce que la parole ordonne. Voir Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ, la parole vivante, a donné l'exemple et s'est donné lui-même. Jean 6, de 48 à 54. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vos pères ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont tous morts, mais moi je donne mon corps et mon sang, c'est-à-dire ma parole et mon esprit, qui donne le discernement pour faire un bon choix, selon la volonté de mon Père. C'est par le baptême de Jésus, par Jean-Baptiste dans le Jourdain, que le Saint-Esprit a amorcé son retour dans l'homme. Marc 1, 9 et 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ainsi, Dieu a procédé à la proclamation de la reconnaissance de Jésus en tant que son Fils, portant son Esprit Saint, le Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. L'affection, c'est-à-dire sa parole et son esprit, le pouvoir et l'autorité, la vie et le mouvement. Par cet esprit, Jésus devenu Christ doit se mettre en marche en faisant le choix de ce qui est agréable à Dieu Saint, son Père. Jean 8, 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Dieu, son Père, va donc ordonner à tous ses enfants adoptifs, portant le nom de Jésus par le baptême dans les eaux qui coulent, de l'écouter et de faire ce que son Fils demande, c'est-à-dire la loi royale. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 15, 12 et 14. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Donc, tout pouvoir et autorité de son Père lui ont été donnés. Matthieu 28, de 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pour avoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut d'abord porter le Christ et vivre la vie de Jésus, le Fils de Dieu. Car Jésus-Christ est devenu la structure par laquelle nous recevons la vie de Dieu. Donc, il est devenu le chemin incontournable. Jean 14, 6 et 23. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus-Christ est devenu cet arbre dont Dieu a ordonné au premier Adam de manger ses fruits. Car ses fruits, c'est la parole de Dieu, la loi royale donnée par Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, l'homme, est le modèle que Dieu aime et qui répond à ses vœux dès le commencement. Ainsi par Christ, la parole qui est sortie de Dieu au commencement s'est accomplie par son Fils Jésus, le corps du Christ. Ainsi tout homme, enfant d'Adam, qui suit ce Jésus et porte ce nom Jésus, par le baptême, et surtout qui vit la vie de Jésus, qui est une vie de prière, il entrera dans cette bénédiction. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Car Jésus, l'homme, selon l'image de Dieu, dominait tout et assujettissait tout. Il ordonnait aux démons de sortir et ils sortaient. Il ordonnait aux maladies de sortir et elles sortaient. Il ordonnait aux tempêtes, aux vagues, aux vents de se calmer. Cela s'accomplissait. Matthieu 8, de 23 à 32. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disent-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils crièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Cet exemple donné par Jésus est aussi pour tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui rejettent le mal pour choisir le bien, et surtout pour ceux qui gardent cela. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu son Père confirme cela. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si l'homme est vraiment Jésus et porte Christ en lui, l'homme qui est donc le corps du Christ, accomplissant la volonté de Dieu, cet homme est donc fils de Dieu et accomplit ce que Jésus, le fils de Dieu, a fait dans le monde. Cet homme fera aussi ce que Jésus a fait. Écoutez et méditez sur ces paroles de Jésus-Christ. Jean 14, versets 12 et de 15 à 29. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Quand le Seigneur dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, vous verrez encore beaucoup de choses. » De ce que j'ai fait, dit le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, n'a exercé son ministère que pendant 3 ans. Mais nous, en tant que croyants chrétiens, on dépasse ces 3 années. Les 3 années en tant que fils de Dieu. C'est normal que nous fassions beaucoup plus que lui. Du moins, si nous demeurons fermes dans l'image de Jésus, qui est celle de son Père. Il arrive parfois qu'on évoque le nom de Jésus et rien ne se passe, c'est-à-dire sans miracle. Cela veut dire que véritablement, en vérité, celui qui proclame Jésus-Christ, c'est clair que Jésus-Christ n'habite pas en lui. Car l'Esprit puissant de Dieu accomplit toujours ce que Jésus-Christ, la parole, ordonne. Jean 16, de 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jamais Jésus-Christ n'a raté ou loupé un miracle, car celui qui porte véritablement Jésus-Christ en lui ne loupe pas le miracle qu'il demande. Acte 3, de 6 à 16. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si cela n'arrive pas, celui qui a demandé doit se regarder, c'est-à-dire se juger et s'examiner. 1 Corinthiens 11, 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 2 Corinthiens 13, 5 Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Jacques 4, de 3 à 8. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui, satisfaire vos pensées, pour vous hisser au-dessus de tous, pour vous donner la gloire. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne partage pas sa gloire. Beaucoup s'élèvent au-dessus des autres, élevant leur voix et en proclamant au nom de Jésus. Mais au fond d'eux, Dieu sonde et connaît. Dieu sait que c'est un mensonge, car dans leur cœur, c'est pour leur gloire. Ésaïe 29, 13 Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il a dit « de la bouche et des lèvres », mais son cœur n'est pas en moi. Ils sont des séducteurs, des malins. Matthieu 7, de 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces hommes qui trompent, ils oublient que Dieu connaît tout. Ils voient tout, même les profondeurs de l'homme. Dieu sait qu'ils vont chercher de la magie pour faire des miracles, et cela pour épater les hommes et les femmes, afin de recevoir la gloire et l'adoration de ces hommes et ces femmes. Mais si nous avons le Christ et le Saint-Esprit en nous, Dieu notre Père nous glorifie. Jean 12, 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Frères et sœurs en Christ, glorifions notre Seigneur et notre Dieu par notre corps, en mettant en pratique la loi royale. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jacques 1, 22, 25 et 27. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Voilà, frères et sœurs, pour cet enseignement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Gloire à Dieu.